Vision, le podcast de la Caisse des dépôts qui vous accompagne. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce podcast Cohésion. Pour cette nouvelle édition, on s'intéresse à l'accompagnement du grand âge. Je vous propose de découvrir comment la Caisse des dépôts est un acteur du logement des personnes âgées. En effet, si le maintien à domicile ou l'entrée en EHPAD sont les options les plus connues, il en existe une autre, les résidences autonomie. Nous parlons de tout cela dans ce nouveau podcast. Pour commencer cette nouvelle édition, je suis avec Laure de la Bretèche, directrice déléguée des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Elle est également présidente d'ARPA Vie, groupe associatif gestionnaire de résidences pour personnes âgées. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, expliquez-nous quelle est la stratégie de la Caisse des dépôts dans le cadre du grand âge et de la santé.
Alors, très simplement, la stratégie de la Caisse des dépôts en matière de grand âge et de santé, c'est conformément à sa vocation d'être présente au plus près de tous les territoires auprès des Français pour contribuer à la cohésion sociale de ces territoires. Et pour ce faire, elle intervient vraiment tout au long du parcours de vie des Françaises et des Français pour lutter, et c'est à ce titre qu'elle intervient sur les politiques d'âge et de santé, contre les fractures sociales et territoriales.
Et à propos de ces actions, quels sont les grands chantiers sur lesquels vous travaillez ?
Alors actuellement, la Caisse des dépôts, qui est comme beaucoup d'autres dans le pays, c'est l'importance de bien accompagner l'évolution démographique que nous connaissons, s'intéresse beaucoup à tout ce qui va favoriser finalement le parcours résidentiel des personnes avançant en âge, françaises et françaises, et c'est sans doute un des sujets qui aujourd'hui occupe le plus ses actions. Son action peut se résumer par quelques chiffres. Elle est venue en appui du plan d'aide à l'investissement de ce qu'on appelle le Ségur de la santé qui couvre les années 2021-24 en mobilisant une enveloppe de plus de 3,5 milliards avec des crédits d'ingénierie, des prêts et des fonds propres visant à venir en appui des EHPAD existant bien sûr, à construire aussi ceux du futur, mais aussi à remettre en état et à niveau les résidences autonomie, créer de nouvelles offres et répondre aux besoins d'habitat de plus petite capacité. Et c'est à ce titre qu'elle intervient aujourd'hui sur l'habitat inclusif. Elle a créé en 2021, en partenariat avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le réseau APA, l'association API, qui a une plateforme dédiée, Mon Habitat Inclusif, pour apporter précisément à tous ces porteurs de projets sur l'habitat inclusif de l'information, de la montée en compétences, les orienter vers les bonnes structures et les aider à trouver des financeurs. Donc ça, cette action-là, qui est plus nouvelle, elle nous a déjà permis d'orienter 250 dossiers en un peu plus d'une année. Et nous travaillons aujourd'hui à une mesure d'impact qui doit permettre aussi d'avoir une évaluation, ce qui est assez rare dans notre pays, des actions entreprises.
Et à propos des résidences autonomies que vous venez d'évoquer, elles sont donc gérées par le groupe associatif ARPA Vie. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors très volontiers, parce qu'effectivement c'est une des spécificités de l'association ARPA Vie que d'être finalement un groupe associatif qui connaît depuis longtemps, depuis les années 60, et qui a développé les résidences autonomie, qui est une offre qu'on trouve plutôt en général dans les collectivités locales, les communes et les intercommunalités. Donc aujourd'hui, ARPA Vie, c'est à peu près, au-delà de son offre en EHPAD, 80 résidences autonomie qui sont placées en centre-ville, souvent, proche des commerces, des transports en commun et des services, et qui sont très adaptées finalement à des personnes âgées de plus de 60 ans, qui n'ont plus le désir de vivre chez elles, qui s'inquiètent des nuits tout seules, qui ont ce sentiment de fragilité, qui peuvent aussi connaître bien sûr une baisse de revenus à l'âge de la retraite ou des difficultés d'accès physique, un sentiment d'isolement. Et pour tout cela, les résidences autonomie sont une offre particulièrement adaptée parce qu'elles sont d'abord avec un coût modéré, c'est un établissement social et médico-social, un ESMS dans le jargon du secteur, et elles offrent finalement un logement autonome, F1 ou F2, avec une plateforme de services, d'espaces communs dédiés à la vie collective, de la restauration, de l'animation. Donc elles concilient assez bien la volonté de continuer à vivre dans son chez-soi, son domicile, tout en ayant un environnement sécurisé avec des personnels dédiés, avec une assistance H24, et aussi, et nous essayons de le développer aujourd'hui, on y reviendra peut-être, des services de soins.
Eh bien voilà qui est clair. Pour aller plus loin sur ce nouveau modèle de résidence autonomie, je vous propose de rejoindre notre journaliste Ludovic Mina qui nous emmène découvrir la résidence autonomie Les Tarâtres en région parisienne. L'établissement a testé pendant 6 mois de nombreuses nouveautés.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Tarâtres, ici à Rueil-Malmaison, en région parisienne, est une résidence qui bouge. Pour preuve, cette salle de gym dans laquelle nous démarrons notre visite. Ici, les 70 résidents peuvent bénéficier régulièrement de séances de remise en forme guidées par un kinésithérapeute, comme c'est le cas ce matin. Bien, laissons nos sportifs à leur tapis de marche et autres vélos et rejoignons celle qui nous reçoit aujourd'hui.
Bonjour Florence.
Bonjour Ludovic.
Merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Florence, Florence Puisservaire. Je suis directrice de la résidence autonomie Arpavie, les Tarâtres, depuis 8 ans sur les Tarâtres.
Très bien. Alors cette résidence, est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous dire surtout ce qu'elle a un peu d'innovant ?
C'est une résidence qui a ouvert ses portes en 1976. Elle a été totalement réhabilitée par le propriétaire en 2014. Donc c'est vrai que vous arrivez dans une résidence qui n'a plus une ride, peut-être un petit peu plus innovante parce qu'on a eu l'opportunité, grâce au forfait soins de la résidence Camille Cartier à Gennevilliers, de bénéficier d'une partie de son forfait soins pour mettre en place le dispositif EPOCA.
Dont on reparlera plus tard. Alors il y a cette salle de gym et puis juste en face, un atelier poterie. Ça aussi, ça fait partie des services que vous proposez. On va visiter ?
Avec grand plaisir, je vous ouvre la porte.
Allons-y.
Cette salle de poterie a une originalité, c'est que c'est le socle de la résidence. Elle a toujours existé. C'est assez rare qu'on puisse bénéficier d'un espace de création artistique et surtout d'un four poterie. Une autre particularité, cet atelier poterie est géré entièrement par une association de retraités de la commune de Rueil-Malmaison, C2A, avec la participation des résidents, bien entendu.
Quel intérêt vous voyez à ce type de nouveaux services et de services ?
Un appel à la créativité et à l'estime de soi, tout simplement, à de la sociabilité, parce qu'on rencontre autant les résidents que des personnes extérieures à la résidence. On est tout simplement dans un maintien de l'autonomie.
Vous avez fait appel à une start-up pour réfléchir à tout ça ?
Alors là, on est résolument dans quelque chose d'extrêmement innovant, très très loin de la poterie. Oui, donc on a fait appel à la start-up EPOCA. Et justement, le docteur Élise Cabane arrive.
Ah bah très bien, on va l'interroger alors. Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous en quelques mots ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis le docteur Cabane, médecin gériatre et urgentiste et une des deux fondatrices d'EPOCA.
Que fait EPOCA aujourd'hui ?
EPOCA en résidence autonomie accompagne la santé des personnes et leur vieillissement. On met en place un accompagnement personnalisé de santé en lien avec le cercle de soins du résident. On organise en fait l'ensemble de son agenda, on va dire, et le tempo en fait de cet agenda médical s'il doit avoir lieu, de telle sorte à le maintenir le plus possible dans l'objectif du parcours de santé qu'on a défini ensemble entre le cercle de soins et le patient.
Finalement, ça veut dire quoi concrètement ?
On sort d'une expérimentation avec le groupe Arpavie sur 161 résidents. Ce qu'on a pu constater, c'est déjà qu'on répond à un vrai besoin puisque dès la proposition initiale de l'expérimentation, 75% des patients ont souhaité être suivis. On a pu remarquer que 100% des personnes qui sont rentrées en résidence autonomie depuis l'expérimentation ont souhaité être suivis aussi par EPOCA. Donc il y a un élément de réponse à un problème. On a déjà évité beaucoup de passages aux urgences, d'hospitalisations inappropriées, mais surtout de réinsertion en fait, du problème qui aurait pu entraîner une hospitalisation, ou parfois qui l'a quand même entraîné, mais de façon plus courte. Mettre en place derrière les actions de prévention, pour le coup secondaire, qui vont permettre d'éviter l'aggravation, la réaggravation des choses. Et donc cette insertion d'une assistance en fait, médicalisée au sein d'une résidence qui, elle, n'a pas vocation à être sanitaire, hein, n'a pas vocation à être médicale, permet d'avoir une congruence entre une vie totalement libre et un accompagnement santé qui est pourtant là, présent, constant, qui détend tout le monde, en fait, aussi bien, j'espère en tout cas, les professionnels de la résidence que les patients eux-mêmes, leurs familles et finalement leurs soignants.
Merci beaucoup pour ces explications, merci.
Je vous en prie, c'est avec joie.
Bien, Florence, on reprend le parcours. Vous nous emmenez à la salle de restauration, c'est ça ?
Absolument.
Juste un mot avant, sur ce que vient de nous dire le docteur Cabane, quel regard vous portez là-dessus, vous ?
Un regard extrêmement bienveillant. Comme l'a très bien dit le docteur Cabane, nous ne sommes pas médicalisés et pourtant, nous devons assurer la sécurité des résidents. Donc c'est un petit peu paradoxal. On fait face à une situation assez préoccupante, en fait, sur tout le territoire national, avec des déserts médicaux. Donc EPOCA est aussi une réponse pour maintenir le résident dans un parcours de soins et veiller tout simplement à sa sécurité.
Yes. Bonjour monsieur, dame.
Bonjour monsieur.
Alors là, nous sommes dans la salle de restaurant. Ça fait partie de la vie sociale de la résidence, tout simplement.
Bonjour madame, vous y venez souvent ?
Oui, bien sûr. Non, ça se passe bien et ils font une bonne distribution.
Voilà. Vous mangez bien ?
Oui, oui, oui.
Monsieur, vous venez ici pourquoi ?
Pour passer le temps avec les copains, puis comme ça, pour passer le temps.
Il y a une bonne ambiance ici ?
Oui, ah oui, très bien, oui. Très bonne ambiance.
C'est un petit peu notre raison d'être. Pour la plupart, une entrée en résidence autonomie, ce sont des liens sociaux. Cette vie sociale qui est essentielle.
Très bien. On va aller voir le logement d'un résident particulier, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir, on va monter au 6e étage.
Allez, c'est parti. On va aller visiter la chambre de Monsieur Knepper, c'est ça ?
Absolument, voilà. Monsieur Knepper est arrivé en avril dernier. Il a souhaité bénéficier du dispositif EPOCA.
Allons voir ça.
Monsieur Knepper !
Bonjour monsieur.
Merci de nous recevoir chez vous.
Le troisième est offert et c'est valable.
Alors voici la cuisine. Là j'ai le frigidaire, le congélateur, le micro-ondes et le four. Et puis là c'est le pouf, le café.
Très bien. Vous êtes tout équipé.
Tout équipé, voilà. Et puis ici c'est la salle à manger, le salon, avec ma bibliothèque, mes disques. Puis là c'est ma chambre.
Comment est-ce que vous vous sentez dans ce logement ?
Moi très bien. Et je suis heureux d'être là.
Qu'est-ce qui vous plaît ?
Déjà la vue.
Ouais, c'est dégagé, lumineux. Hein.
L'église où j'habitais avant, à Suren. Donc, tout. Puis l'ambiance de la résidence, le personnel, tout, sympa. Et puis là, après, je me fais des petits amis.
Et je peux vous demander votre âge ?
81 ans.
Vous ne les faites pas ?
C'est vrai ?
Ah non, pas du tout.
Quoi, mais merci.
Vous êtes aussi accompagné et aidé dans vos démarches, dans plus d'autonomie, finalement.
Il y a aussi un infirmier. Ou à l'infirmière, et j'ai le kiné, j'ai un peu de l'œil, et puis j'ai aussi l'œil docteur. Donc si j'ai besoin, on les appelle et ils viennent.
Qu'est-ce que c'est que cette montre que vous avez au poignet ?
Si je tombe par terre dehors, on appuie sur le bouton, et ça répond, puis on dit, voilà, je suis tombé par terre. Alors eux, ils envoient des sanitaires. On est quand même sécurité.
Et vous avez d'autres services comme ça qui vous sont proposés d'aide si vous avez un problème ?
Paraît-il que oui, si par exemple j'ai besoin d'une femme de ménage, bon ben je fais appel, mais pour l'instant, ben, je me débrouille.
En tout cas, vous êtes très souriant, vous êtes heureux ?
Oui, c'est grâce à Florence.
Merci beaucoup Ludovic pour cette belle immersion au cœur de la résidence Les Tarâtres. Lors de la Bretèche, je me retourne vers vous, c'est une résidence que vous connaissez bien je crois.
Oui, c'est aussi une bonne traduction, cette résidence, de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'engagement du groupe Caisse des dépôts, puisque le propriétaire des murs est le groupe CDC Habitat.
Et ces résidences autonomie, c'est l'avenir selon vous ?
Alors je crois que c'est effectivement, alors que pendant longtemps, on a cru que c'était une formule dépassée parce qu'on y préférait un modèle plus médicalisé, l'EHPAD, c'est une formule qui touche exactement la cible d'une population qui est aujourd'hui très nombreuse, les plus de 75 ans, avec des fragilités sur le manque d'envie de vivre seul, la difficulté peut-être à boucler son budget, le besoin de se sentir entouré dans des moments un peu critiques. Donc de ce point de vue-là, la résidence autonomie est une idée d'avenir. Elle est aussi une idée d'avenir si on considère que, bien sûr, par rapport à ce qu'elle était autrefois, elle doit évoluer. C'est une offre qui représente à peu près 100 000 places. C'est important, mais ça n'est pas suffisant. Et l'on pense que d'ici 2040, on aurait besoin de 60 000 places supplémentaires. Sachant que finalement, qu'est-ce que c'est que la résidence autonomie de demain? C'est peut-être un endroit où les gens auront moins besoin d'espace collectif. On ne vit pas la restauration comme autrefois. Ça n'est pas une prestation pour laquelle on a besoin de cantine ou de lieux collectifs. Les gens savent aujourd'hui trouver des solutions à la restauration différentes. En revanche, on a besoin de travailler sur des questions nouvelles. L'accès aux soins, l'aide à tout ce qui concerne notre vie quotidienne dans l'informatique et l'administratif. Donc il y a des services à réinventer, mais en gardant cette belle idée qui est que, au-delà d'un certain âge, sans être dépendant, on a besoin d'appui dans sa vie quotidienne et d'un peu de vie communautaire aussi, mais dans un sens amical, d'amitié et de lutte contre l'isolement.
Et pour terminer, alors, quelles sont les prochaines échéances du groupe Caisse des dépôts sur cette thématique du logement des personnes âgées ?
On a un tel défi, effectivement, sur la transition démographique que on doit avoir la capacité à choisir bien ces nouvelles lignes, ces nouveaux défis. Et parmi eux, il y a certainement la prévention, qui n'est pas un sujet simple, mais qui passe aussi, et là, la Caisse des dépôts a les moyens d'agir, par l'adaptation des logements et l'accès aux immeubles. C'est aussi une réflexion que nous devons avoir sur le financement de l'autonomie. Et nous réfléchissons actuellement à des formules de viagers qui permettraient de permettre à des personnes âgées de retrouver une certaine solvabilité, d'augmenter leur pouvoir d'achat dans un temps où on s'interroge sur le reste à charge. Et c'est aussi finalement tout ce qui peut concerner l'habitat qu'on dit encore alternatif parce qu'on est en recherche, tout ce qui est à côté de l'EHPAD, sous la nouvelle forme des résidences autonomie d'avenir dont je vous parlais, mais également avec l'habitat inclusif, doit nous permettre de développer l'offre, de la faire connaître et de rassurer les personnes âgées, non pas sur le fait qu'elles doivent avoir des solutions à la dépendance, qui ne concerne qu'une petite partie d'entre elles, mais sur cette grande tranche de vie qui est celle de l'apparition des fragilités, retrouver des solutions nouvelles. Et enfin, je crois que nous devons aussi travailler, la Caisse s'y emploie et ARPAVI aussi, à généraliser des formules plus convergentes de réponse aux besoins. C'est le cas avec la plateforme multiservice gérontologique de Villiers-le-Bel que nous avons créée en région parisienne et qui nous permet de concilier autour de la personne âgée, du domicile à la fin de la vie, un certain nombre de solutions et de services. Donc, avec les résidences autonomie qui sont aujourd'hui, nous sommes absolument convaincu de cela, et nous y travaillons avec notre filiale ARPAVI, le cœur d'un nouveau système sur le parcours de vie. Il y a beaucoup de choses à créer et la Caisse s'y emploie.
Et bien de belles ambitions. Laure de la Bretèche, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de ce podcast spécial consacré aux résidences autonomie et à l'engagement de la Caisse des dépôts à travers le groupe associatif ARPAVI. On espère avoir répondu aux questions que vous vous posez sur ce sujet. Belle journée à vous tous et à bientôt.
Cohésion, le podcast de la Caisse des dépôts qui vous accompagne.